Il est 7h sur France Culture, tout de suite le journal de la rédaction Catherine Nuttu. Bonjour à toutes et à tous. Une nouvelle journée test pour la suite du mouvement contre la réforme des retraites. Après 6 semaines de conflit, les syndicats opposés au texte du gouvernement appellent aujourd'hui à une nouvelle journée de manifestation avant de tenter d'élargir le mouvement bien au-delà des transports où la grève s'essouffle actuellement. À la une à l'étranger, la marche vers le 3e procès d'un président dans l'histoire des États-Unis. Le dossier d'accusation contre Donald Trump a été officiellement transmis hier au Sénat. Le milliardaire républicain devra répondre de 2 chefs d'accusation, abus de pouvoir et entrave au travail du Congrès, en raison des pressions exercées pour convaincre l'Ukraine d'ouvrir une enquête sur Joe Biden, son potentiel rival à la présidentielle de novembre. Nous serons à Washington dans un instant. À suivre également dans ce journal, la persécution des chrétiens dans le monde et le Liban et des banques qui essuient la colère populaire. C'est un moment historique qui s'est joué hier dans les couloirs du Capitole à Washington. Le dossier d'accusation contre Donald Trump a été transmis au Sénat par la présidente démocrate de la Chambre des représentants. Le 45e président des États-Unis devra répondre d'abus de pouvoir et d'entrave à la bonne marche du Congrès. Il s'agit de l'affaire ukrainienne. Ce coup de fil passé en juillet 2018 par Donald Trump à son homologue ukrainien Zelensky pour obtenir des informations compromettantes sur son rival politique Joe Biden. Même si l'issue de ce procès en destitution fait peu de doute, Donald Trump devrait être acquitté par un Sénat à majorité républicaine. C'est un moment tragique de l'histoire des États-Unis, a lancé la démocrate Nancy Pelosi, pourtant tout sourire hier à l'orée de ce 3e procès en destitution d'un président dans l'histoire des États-Unis, suivi à Washington par Gregory Phillips.
D'un pas solennel, les 7 représentants démocrates désignés pour être les procureurs dans ce futur procès traversent le Capitole, marchant de la Chambre des représentants jusqu'au Sénat pour y porter les 2 chefs d'accusation qui pèsent sur le 45e président des États-Unis.
For the impeachment trial of Donald John Trump, President of the United States.
The message will be received.
Alors les sénateurs prennent acte et confirment que ce procès en destitution de Donald Trump s'ouvrira mardi prochain à 13h. Moment historique, disait juste avant la speaker de la Chambre, la démocrate Nancy Pelosi.
C'est un président qui dit qu'il peut faire ce qu'il veut, mais ce n'est pas le cas. Il s'agit de notre Constitution, il s'agit de sauver notre République. Le président n'est pas au-dessus des lois, il devra rendre des comptes. Il a été mis en accusation, impeached, c'est-à-dire empêché, et ça restera pour toujours. Ils ne pourront jamais effacer cela.
C'est le président de la Cour suprême, le juge John Roberts, qui dirigera ce procès. Le premier magistrat du pays prêtera serment tout à l'heure, à la mi-journée, tout comme les 100 sénateurs qui seront amenés à se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence du président. On ne sait pas encore si des témoins seront convoqués, ni combien de temps ce procès va durer. Pas plus de 2 semaines, disait-on hier soir à la Maison-Blanche.
Grégory Phillips à Washington pour France Culture. Toujours aux États-Unis, le Congrès devrait approuver définitivement aujourd'hui le nouvel accord de libre-échange liant les États-Unis donc au Mexique et au Canada. Une victoire majeure pour l'administration de Trump et des échanges commerciaux plus justes, se félicite le camp républicain, déjà ragaillardi par la signature d'une trêve commerciale avec la Chine hier. Pékin s'est engagé à acheter 200 milliards de dollars de biens et services américains et 32 milliards de produits agricoles américains supplémentaires au cours des 2 prochaines années, afin d'en finir avec une guerre à coups de droits de douane punitifs. À la une en France, la 43e journée de grève contre la réforme des retraites. Matignon estime à près d'1 milliard d'euros le coût de la grève à la SNCF et la RATP. Une grève qui n'a que trop duré, s'est agacé hier Édouard Philippe, alors qu'aujourd'hui le trafic est quasi normal pour les TGV et que la RATP note, elle, une amélioration un peu plus lente du trafic. Mais pour l'intersyndicale CGT, FO, Solidaire, FSU, CFE-CGC et 3 organisations de jeunesse qui appellent à descendre dans la rue encore aujourd'hui, le mouvement social est loin de s'essouffler. Catherine Perret, secrétaire confédérale de la CGT.
De toute façon, la grève, elle n'a jamais été limitée depuis le 5 décembre à la grève des transports. Ça a toujours été plusieurs secteurs professionnels qui sont dans la bagarre. Donc c'est évidemment, encore une fois, de la communication que fait le gouvernement. Sauf que nous, ce qu'on voit, c'est que plus aucun port ne fonctionne, que les raffineries ont reconduit la grève pour 3 jours, et ce sont des grèves majoritaires qui commencent à toucher au carburant, et donc on dit, il y a des mécontents partout. Je rajoute pas la question de la santé. puisque vous avez vu que depuis le début de la semaine, quand même, le mouvement de la santé, il a repris encore plus de vigueur et que les médecins démissionnent de leurs fonctions administratives et jettent leurs blouses à l'image des robes des avocats. Donc on ne peut pas dire que dans ce pays, les gens sont au travail, majoritairement les secteurs professionnels sont dans l'action, dans la grève, et c'est pas prêt de s'arrêter.
Et eux d'ailleurs ont également jeté leur blouse, faute d'être reçus au ministère de l'Intérieur hier. Les experts de la police scientifique ont clamé leur opposition à la réforme des retraites à Paris, venue de toute la France. Une centaine d'agents sur les 2500 que compte la profession ont reconstitué une scène de crime géante devant la pyramide du Louvre. Ces experts de la police scientifique réclament le droit de partir à la retraite plus tôt en raison de la pénibilité de leur métier, comme leurs collègues de la police nationale dont le régime spécial est maintenu. Une différence de statut très mal vécue, comme a pu le constater Céline Autain.
Souvenir du labeur, avec ses corps en morceaux, qu'il a fallu redécouper.
Ils arborent des blouses ensanglantées, des photoshocks de cadavres, car c'est leur quotidien, et sur les pancartes.
Je suis un flic pour la population, je suis un sale flic pour les criminels, et je suis un sous-flic pour l'État. Qui suis-je ?
Les experts scientifiques, exaspérés d'être considérés comme de simples fonctionnaires de bureau. Nathalie Roulier a 56 ans, elle travaille en Seine-et-Marne et doit assurer une astreinte plusieurs nuits par semaine.
On a des situations très délicates, il faut le savoir, c'est qu'en pleine nuit on peut vous appeler sur un viol, donc ça prend du temps, ça peut être fatigant. Je ne me vois pas encore dans quelques années continuer à me lever à 2h du matin, rentrer chez moi à 3h, me repartir à 4h. Et puis la journée de travail derrière, puisque forcément à 8h30 on est au travail jusqu'à 18h et on continue nos astreintes, puisque nos astreintes c'est 7 jours sur 7. Donc en fait, il y a des fois on ne dort même pas.
Leur travail pénible est pourtant essentiel aux enquêtes. C'est sur lui que repose la collecte des preuves, un rôle central qui justifierait à leurs yeux un statut à égalité avec les autres policiers. Mais Céline Rabat, en grève depuis décembre, ne voit rien venir.
On se sent littéralement méprisé, il n'y a pas d'autre mot. On nous dit qu'on nous écoute. Alors je présume qu'ils doivent nous écouter, mais alors ils ne doivent pas vraiment nous entendre. Parce que normalement 2019 devait être notre année, c'est ce qu'on nous avait annoncé. Il y a eu beaucoup de réunions, il n'y a eu aucune évolution.
Des agents qui décrivent des atteintes au droit de grève au travers de réquisitions préventives, le symbole pour eux d'une hiérarchie qui ne veut rien entendre.
Et si le gouvernement ne veut lui aussi rien entendre, l'intersyndicale opposée à la réforme des retraites appelle, en plus de la mobilisation d'aujourd'hui, à une nouvelle journée de manifestation interprofessionnelle le 24 janvier prochain, le jour de l'examen du projet de loi en Conseil des ministres. Et de quoi crisper peut-être un peu plus les Français. Le taux du livret A va encore baisser. Il passera de 0,75% à 0,5% le 1er février prochain. Jamais le placement préféré des Français n'a aussi peu rapporté. À deux mois des élections municipales, dans les pages du Parisien ce matin, le ministre de l'économie Bruno Le Maire tente de déminer la question. Il dit tenir compte des taux d'intérêt bas et du niveau de l'inflation. Le taux serait même plus bas, mais un plancher de à 0,5% a été décidé. Il permettra notamment de construire 17 000 logements sociaux supplémentaires, estime Bruno Le Maire, et de financer encore la transition écologique ou la rénovation d'hôpitaux, d'écoles et de crèches. C'est une information de nos confrères de France Info. Le réalisateur Christophe Ruggia devrait être déféré au parquet en vue de sa présentation à un juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire ouverte dans la matinée. Christophe Ruggia est accusé d'attouchement et de harcèlement sexuel par la comédienne Adèle Haenel alors qu'elle était âgée de 12 à 15 ans. Depuis le début de son procès, Bernard Prenat s'était contenté de reconnaître partiellement des agressions sexuelles en demandant pardon à ses victimes de jeunes scouts, alors qu'il était lui prêtre au diocèse de Lyon. Mais sa défense a pris un nouveau tour hier. Bernard Prenat, jugé donc à Lyon, a révélé avoir lui-même été abusé dans sa jeunesse et de souligner encore la responsabilité de l'Église qui n'a pas su réagir face à ses pulsions. On y revient dans le journal de 7h30. 7h09 sur France Culture, direction le Liban. À présent, pays englué dans une crise économique et une impasse politique. Des dizaines de manifestants ont saccagé des banques hier et coupé des routes. Le reportage à Beyrouth de Clotilde Bigot.
Ce chant « Révolution » résonne dans les rues du Liban depuis 90 jours maintenant. Cette semaine, le ton s'est encore durci pour la semaine de la colère devant la Banque centrale. Ils sont venus nombreux protester contre la politique monétaire du pays. Mercredi, les banques aux alentours ont été vandalisées, une pratique encouragée par la plupart des manifestants, notamment Tarek, qui travaille dans le quartier.
Ce qu'il s'est passé avec les banques, c'est 10% de ce qu'il se passera demain.
De la violence, les manifestants présents ne voient que ça comme option face au mutisme politique.
Moi, ça fait 90 jours, je suis toujours là. Dès le début, j'étais avec la violence parce que pour qu'ils aient peur, il faut de la violence. Ça fait 90 jours qu'on est dans la rue et on n'a jamais vu autant de réactions de leur part.
Ceux dont parle Dana, ce sont les hommes politiques rejetés par la rue car tenus pour responsables de la situation actuelle. Après la reprise des blocages de route, le président a pris la parole pour rassurer la rue, mais la situation du pays reste catastrophique.
Les Libanais n'ont vraiment rien. Le taux de chômage, l'électricité, l'eau, rien.
Le taux de chômage qui avoisine les 36% chez les jeunes diplômés, ainsi que l'inflation des prix, pousse de plus en plus de Libanais dans la pauvreté et grossit les rangs des manifestations guidées par une jeunesse qui ne compte pas se laisser faire.
Clotilde Bigot à Beyrouth pour France Culture. Quelque 260 millions de chrétiens ont été fortement persécutés dans le monde l'an dernier. Un chiffre en augmentation, déplore l'ONG Portes Ouvertes dans un rapport publié hier. Cette organisation protestante vient donc de rendre public son index annuel des 50 pays où les chrétiens sont le plus pris pour cible et de noter une détérioration de la situation de la liberté religieuse en Asie. Olivier Poujade.
La Chine, mais également l'Inde, les gouvernements de ces deux nations n'hésitent plus à institutionnaliser cette persécution contre les minorités chrétiennes. L'État du Jharkhand, au nord de l'Inde, a récemment voté une loi anti-conversion visant directement les populations tribales des zones forestières converties par des missionnaires jésuites au milieu du 19e siècle. Une loi qui va dans le même sens que celle sur la citoyenneté soutenue par le gouvernement Modi et dirigée contre la minorité musulmane. En Chine, le puissant mouvement patriotique considère les différentes mission chrétienne comme subversive. Elle refuse la tutelle de cette association et sont considérées donc comme illégales par le pouvoir central. La justice de certaines régions n'hésite pas à prononcer des condamnations pour propagation du christianisme. Timothy Cho, lui, est nord-coréen. Il avait 16 ans lorsqu'il est parvenu à fuir son pays en tête de cet index de persécution des chrétiens depuis 17 années consécutives.
Mon cas est vraiment exceptionnel. J'ai bénéficié d'une forte exposition médiatique, du soutien de la communauté internationale, des ONG. C'est pour ça que j'ai pu fuir. Mais dans presque 100% des cas, les autorités chinoises renvoient les réfugiés en Corée du Nord. Les deux pays entretiennent de très bonnes relations, même si la Chine redoute vraiment de devoir gérer un jour une évasion massive venant de Corée du Nord.
Le christianisme est considéré comme hostile à la dynastie Kim en Corée du Nord. Près de 250 000 personnes seraient aujourd'hui enfermées dans des camps de travail forcés pour avoir exprimé leur foi.
L'Australie l'espérait depuis longtemps. La pluie est tombée ce matin sur les régions affectées par de gigantesques incendies qui font rage depuis septembre, offrant notamment une amélioration de la qualité de l'air. Le temps en France pour ce jeudi 16 janvier, pluvieux sur la Bretagne, plus ensoleillé dans le reste du pays. Au meilleur de la journée, il fera de 11 à 16 degrés du nord au sud, jusqu'à 18 au pied des Pyrénées.